Vous êtes heureux, heureuse de pouvoir être là ce matin. C'est un privilège, c'est vrai, de partager la parole de Dieu, mais c'est aussi une responsabilité. Dieu nous regarde. Il me voit, il vous voit, il sait ce qu'il y a dans votre cœur, il sait ce qu'il y a dans mon cœur, et ce matin, il veut nous faire du bien. Amen. Vous le croyez ? Vous croyez que la parole de Dieu est vivante ? Elle vit, la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre comme les autres. Certains m'ont dit, oh mais moi la Bible, je l'ai lue une fois. Mais là, la Bible, ça ne se lit pas une fois. La Bible, ça se vit tous les jours. Amen. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous ces textes. Nous allons faire beaucoup de lectures, parce que je pense, comme vous le savez, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la parole de Dieu. Tout ce que l'on peut y rajouter, je ne dirais pas que ce soit inutile, parce que l'Esprit de Dieu agit, l'Esprit de Dieu vit. Et il veut encore ce matin nous amener à aller plus loin. Nous avons vu pendant ces dernières semaines avec notre frère les armes de Dieu, cette puissance dont nous avons besoin de nous revêtir, toutes ces armes. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de la vie spirituelle. Ce qu'est la vie spirituelle ? C'est quoi être spirituel ? C'est se promener avec la Bible sous le bras ? C'est venir à l'église ? C'est quoi vivre selon l'Esprit ? Alors nous allons faire beaucoup de lectures, mais j'aimerais commencer dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Nous allons partager du verset 13 à 25. Puis nous ferons une autre lecture dans le livre aux Romains. Galates 5, 13 à 25. Je vous laisse chercher. Je vois que vous avez tous votre Bible. Que Dieu soit béni. Vous savez à quel prix nous avons la Bible aujourd'hui ? Des hommes, des femmes se sont fait massacrer à cause de la parole de Dieu. Et nous, ce matin, nous avons ce privilège d'avoir la vie entre nos mains. Amen. Que Dieu soit béni. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Nous allons lire maintenant dans le livre aux Romains, au chapitre 8, du verset 1 à 9. Romains 8, 1 à 9. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Là, nous sommes là dans le vif du sujet. Nous sommes dans le plein combat. C'est vrai, nous avons vu, il y a le combat, il y a ce combat dont nous parle l'apôtre Paul, où nous devons lutter non contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre toutes ces choses qui sont dans le monde spirituel. Mais il y a un autre combat, c'est le nôtre, avec nous-mêmes, avec notre chair. Et chaque jour, nous devons lutter, veiller, prier. Nous allons le voir au travers de textes que nous allons lire. Parce que la chair est faible. La chair, c'est celle qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors, quand est-ce qu'elle commence notre vie spirituelle, d'après vous? Ça vient comme ça, ça nous tombe du ciel. La vie spirituelle, elle commence le jour où on a accepté Jésus dans son cœur, où on a demandé pardon au Seigneur, où on a fait la paix avec lui. Alors, comme nous l'avons lu, comme cela nous a été lu dans le texte de la Sainte-Cène, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Et nous avons besoin de grandir, de croître. Comme un nouveau-né, nous avons besoin d'apprendre. Vous aimez apprendre ? Oh, vous me direz, moi, à mon âge, maintenant, je sais tout. Mais on apprend tous les jours. Et jusque dans l'éternité, nous apprendrons. Par contre, quand on sera dans le ciel, nous est dit que nous connaîtrons comme Dieu connaît. Alléluia ! Ça vous tarde ce jour-là ? Moi, je suis impatient. Je suis impatient de me retrouver auprès du Maître, dans cette belle demeure qu'il m'aura préparée. Vous savez qu'il vous a préparé une maison ? Dans le ciel ? Que Dieu soit béni. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, eh bien, il ne nous laisse pas tout seul. Nous ne sommes pas là, il ne nous lâche pas dans la faune de ce monde sans aide. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons cet Esprit puissant qui vient nous donner autorité, qui vient nous révéler la parole de Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu, il faut la méditer jour après jour, parce que c'est un conseil merveilleux, c'est une nourriture excellente pour notre âme. Vous nourrissez votre corps tous les jours. Vous mangez, vous buvez, et vous avez besoin de nourrir votre âme. On a besoin de nourrir notre âme de la parole de Dieu. La parole de Dieu et le Saint-Esprit, elle nous amène à marcher sur le chemin que Dieu lui-même nous a tracé. Vous savez que chacun d'entre vous avez une voie différente. Dieu nous amène au même endroit, mais nous avons tous un parcours différent. Nous ne sommes pas tous pareils, nous ne pensons pas tous la même chose, nous ne voyons pas les choses tous de la même manière. D'ailleurs, la parole de Dieu nous l'enseigne. Lorsque des textes nous sont rapportés par les évangiles, certains voient d'une manière, d'autres voient d'une autre, et cela nous apporte un bienfait pour notre vie, parce qu'on comprend mieux les choses. Et nous avons besoin, nous, de pas d'être tous pareils, parce que Dieu n'a pas fait des clones, il nous a fait chacun individuellement particulier. Nous sommes des créatures particulières aux yeux de Dieu. Dieu nous donne une attention particulière à chacun. Si nous voulons recevoir sa grâce, si nous voulons nous laisser imprégner de sa puissance et de sa force, bien sûr que nous avons notre volonté à nous. Nous pouvons dire non, on peut refuser la grâce de Dieu. Et on le voit dans la parole de Dieu. Des exemples où des hommes n'ont pas accepté Jésus. Ils ont écouté, ils l'ont suivi, puis ils se sont... Et éparpillés, ils ont dit « Tes paroles sont trop dures, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Parfois, le Seigneur veut nous parler. Est-ce que nous voulons l'écouter? Lorsque nous prions, est-ce que nous écoutons le Seigneur? Est-ce que nous ne sommes pas devenus des machines à prière, des machines à louange? Remettons-nous en question. Savons-nous écouter le Seigneur quand il veut nous parler? Dieu nous met des choix. Nous avons toujours la possibilité de choisir avec le Seigneur. Et ceux qui vous diront le contraire, ce sont que des légalistes. Ce sont que des hommes qui veulent vivre et vous ramener à vivre sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce, sous l'amour et sous la main du Seigneur Jésus. Et nous avons le choix de choisir ce que nous voulons faire avec Jésus. Jésus n'imposera rien à personne. Ceux qui parcourent la Bible, qui ont l'habitude de lire la Bible, si vous trouvez un passage où vous voyez Jésus courir après quelqu'un pour le tirer vers lui, vous me le direz, parce que moi j'en ai trouvé aucun. Parce que Jésus ne court pas après les âmes. Jésus, il proclame la vérité. Il proclame sa parole. À qui? Eh bien, il veut la recevoir, il veut l'entendre. Dieu ne nous impose rien. Il ne viendra jamais vous persécuter en vous disant « il vous faut venir, il vous faut faire ceci, il vous faut faire cela ». Dieu n'est pas comme ça. Fais pas ci, fais pas ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous impose rien. Dieu nous parle. Dieu, il nous donne des conseils. À nous de les suivre, oui ou non. D'accord? C'est ça ce que Dieu veut que nous vivons. C'est ce que nous avons lu. Frère, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Alléluia. Elle n'est pas bonne cette parole de Dieu? Dieu a fait de nous des hommes et des femmes libres, mais ce n'est pas un prétexte de faire de notre liberté n'importe quoi. Nous devons être conscients de ce que Jésus veut faire dans notre vie. Savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez ce que Dieu attend de vous? C'est important de le savoir. On y viendra un peu plus loin. Donc, dans cette marche avec Jésus, dans cette vie nouvelle, eh bien, nous marchons en nouveauté de vie. Dans Romains, au chapitre 6, au verset 4, il est dit ceci, « Ne le cherchez pas, je vais vous le citer. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » C'est une nouvelle vie qu'il se présente à nous. On était morts dans notre péché, nous étions loin de Dieu, enfin moi en ce qui me concerne, c'était mon témoignage, nous vivions dans les ténèbres, dans ce monde perdu, sans Dieu, sans foi ni loi. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons été éclairés par Jésus-Christ. Donc nous marchons en nouveauté de vie, dans une vie nouvelle. Et le Saint-Esprit veut nous aider. Donc dans cette vie nouvelle, nous allons marcher comment? Dieu va nous donner, quand on rencontre Jésus, il nous déploie une liste et va nous dire, voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est comme ça que ça a marché avec vous? Non. Nous vivons par la foi. Nous vivons pas par la vue. Nous vivons par la foi, car nous marchons non par la vue, mais par la foi. Alléluia. C'est Paul qui dira ceci aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 5 à 7, pour ceux qui prennent des notes. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et le moyen que le Seigneur nous a donné, c'est la foi, c'est de croire. Crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Beaucoup de gens croient parce qu'ils voient, ils veulent voir. Ils se disent, je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois. Mais après, ils oublient de faire la démarche de Thomas. Parce que Thomas est allé jusqu'au bout de sa démarche. Beaucoup de gens aujourd'hui s'arrêtent là. Oui, moi si je ne vois pas, ben, je ne croirai pas. Eh bien, ils ne verront pas grand-chose et ils croiront en rien. Parce que celui qui aime le Seigneur et qui veut marcher avec Dieu, eh bien, il va vivre et il va marcher par la foi. Il croit et il voit les choses avant qu'elles arrivent. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Matthieu 21 dira, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, c'est le passage où Jésus a maudit le figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela, ça ferait. C'est impressionnant, le pouvoir de la foi, de savoir que avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Dans ce texte-là, Jésus ne nous enseigne pas à ce que nous allons devenir des déplaceurs de montagnes. Jésus n'est pas un magicien. Jésus n'est pas un magicien, Jésus est Dieu. Jésus est le Seigneur des Seigneurs et il veut nous utiliser pour manifester sa gloire dans ce monde, aujourd'hui. Si on ne croit pas à sa puissance, on ne verra pas grand-chose. Et la parole de Dieu nous enseigne que souvent, et très souvent, c'est notre incrédulité qui empêche. Parce qu'on sait, que Jésus va faire des choses, mais on ne le croit pas. Quand Jésus est allé pour guérir pour ressusciter Lazare. Marthe lui a dit, je sais que tu peux faire ces choses. Mais Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Savoir, c'est une chose merveilleuse, le savoir. Mais si on ne croit pas à ce qu'on sait, ça ne sert pas à grand-chose. Il vous sera fait selon votre foi. La foi, elle fait quoi? Elle offre la guérison. Nous le voyons avec le centenier romain, dans Luc 7, verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Pourtant, cet homme, c'était un païen. C'était un militaire. Cet homme on lui a inculqué dès sa jeunesse d'être au combat et de tuer des personnes, des gens. Mais cet homme a dû entendre parler de Jésus et il s'est approché de Jésus. Et il a dit, je crois que tu peux le faire. Et il nous a dit que ses serviteurs de retour à la maison, vous lirez ce passage dans Luc au chapitre 7, ils trouvèrent le serviteur qui avait été malade, il était guéri. Alléluia. C'est ça la foi. Savoir et croire que Dieu est capable de faire. La foi, elle fait quoi encore? Elle offre le salut. La femme à la perte de sang, lorsqu'elle s'est approchée de Jésus, qu'elle a touché le bord de son vêtement. Luc 8, 48, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia, la foi qui sauve. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons cru que Jésus-Christ était mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il nous a donné la vie. Alléluia, le juste vivra par sa foi. C'est Habacuc qui dit ceci au chapitre 2, au verset 4. Et c'est pas parce qu'on voit de grandes choses, c'est pas parce qu'on verra des miracles, des prodiges, qu'on verra de grandes choses que notre foi va grandir. C'est pas ça qui va faire grandir notre foi. Notre foi, elle grandira quand nous la nourrirons de la parole de Dieu. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup d'exemples où il nous est dit que des hommes ont été guéris. Mais c'est pas pour cela qu'ils ont suivi Jésus. Regardez, prenez l'exemple sur les 10 lépreux. Les 10 ont été guéris. Pourtant, il n'y en a eu qu'un qui a eu droit au salut. Celui qui est revenu vers Jésus et qui a considéré que Jésus était le Seigneur glorieux. Alléluia. Nous voyons aussi ces hommes qui ont quitté l'Égypte. Nos pères, n'ont-ils vu de grandes choses? Vous vous rendez compte, voir la mer rouge s'ouvrir? Voir ses vêtements pendant 40 ans ne pas s'user? Aucun mal aux pieds, parce que les chaussures étaient toutes neuves chaque jour. Dieu a pourvu à la nourriture. Et pourtant, aucun de ces hommes qui ont vu tous ces miracles n'ont pu rentrer dans le pays promis, parce qu'ils n'ont pas cru, sauf deux, Josué et Caleb. Que le nom du Seigneur soit béni, que nous puissions être des Josué et des Caleb. Croire que Dieu est capable de faire de grandes choses. Nous, on ne peut pas, mais Dieu, lui, il peut tout. Nos expériences, elles ne vont pas nous amener à devenir des êtres spirituels. Ce n'est pas parce qu'on vivra des expériences qu'on deviendra spirituel. Bien sûr, ça nous encourage, n'est-ce pas? Quand on voit une guérison, quand on voit un homme, une femme, un enfant, un jeune homme se convertir, donner sa vie à Seigneur, ce n'est pas extraordinaire? C'est le plus beau des miracles, de voir la vie de Jésus rentrer dans un homme, dans une femme, dans un enfant. Dans un jeune, un moins jeune. C'est merveilleux. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui nous donne la vie. La marche spirituelle, la vie spirituelle est une vie stable. On n'est pas instable quand on est avec le Seigneur. Éphésiens 4:1 nous dira, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Alléluia. Être digne du Seigneur. Être saint comme Dieu est saint. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut dire que toute notre vie doit être amenée à plaire à notre Seigneur Jésus, à lui montrer combien nous l'aimons. Quand on aime quelqu'un, on va tout faire pour lui plaire, pour lui faire plaisir. Et si nous aimons Jésus, nous allons tout faire pour lui être agréable. Et on peut se tromper, non? Vous vous trompez, j'espère. Il n'y a pas que moi. On peut faire des erreurs, c'est pas impossible, mais Dieu nous aide dans sa grâce. Et au travers des erreurs qu'on va vivre, eh bien on va grandir parce que Dieu va nous apprendre. Dieu ne nous jugera jamais ici-bas. Dieu nous aime d'un amour insondable. Notre comportement doit être digne de l'amour de notre Seigneur. On doit être responsable vis-à-vis de Dieu. Quoi que nous fassions, faisons tout pour être agréable au Seigneur. Dans nos activités, dans notre vie de chaque jour, dans notre travail, avec notre famille, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères, nos sœurs. Faisons tout pour être des artisans et des ouvriers de paix. Bien sûr qu'on a des choses à dire. Bien sûr qu'on doit exercer la piété. On doit, quand quelqu'un pêche, nous dit la parole de Dieu, va, reprends ton frère entre toi et lui seul. Explique-lui. Il y a des processus. Bien sûr qu'on doit faire ces choses, mais nous faisons-les dans l'amour du Seigneur. Conduit et dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous amener à voir de grandes choses. Nous, on ne peut rien faire. Mais Dieu, lui, il peut tout, que son nom soit béni. Notre vie spirituelle doit être une vie équilibrée dans toutes les circonstances que l'on traverse. Que Dieu soit béni. Notre vie spirituelle, elle nous amène à vivre dans l'amour. Éphésiens 5, verset 2. Marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme une offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Que Dieu soit béni. Voilà notre exemple. Quel est votre exemple à vous ? Christ nous a aimés et nous devons aimer comme Christ nous a aimés. Ça ne vous fait pas réfléchir, ça ? Il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Et nous ? Est-ce possible de pouvoir aimer comme Christ nous a aimés ? Par nous-mêmes, non. Mais avec Dieu, tout est possible. Que son nom soit béni. Affectionnez-vous aux choses de l'Esprit, nous dit la parole de Dieu. Qui est notre modèle ? Qui est Jésus ? Est-ce que vous le connaissez réellement ? Est-ce que vous savez qui c'est qui a découvert l'Amérique ? Alléluia ! Et pourquoi il l'a découvert l'Amérique ? Voilà, parce qu'il a cherché. Il n'a pas écouté. Les hommes, ils pensaient que la terre était plate et que s'il allait au bord, eh bien, il allait tomber dans je ne sais pas quoi. Mais Christophe Colomb, il est allé chercher. Et si vous ne connaissez pas Jésus, faites comme Christophe Colomb. Prenez la parole de Dieu. Cherchez Christ. Cherchez qui il est. Cherchez ce qu'il a à vous dire. Et vous verrez. Ah, ça prendra du temps. Croyez pas que du jour au lendemain, ça y est, dès que vous allez ouvrir la parole de Dieu, bing! Une révélation. Non. La parole de Dieu, elle se découvre. Elle se cherche. Il faut creuser en profondeur. Il faut aller voir. Quand un verset vous parle, ne vous contentez pas de ce verset. Allez, prenez 2, 3, 4 versets. Regardez ce qui avance, ce qui est après. Pourquoi ce verset a été écrit? C'est comme ça qu'on médite la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on découvre Christ. Qu'on découvre qui il est. Alléluia. Il nous sera impossible de prendre exemple de quelqu'un si on ne le connaît pas. Si vous ne connaissez pas Jésus, mais vous n'allez pas marcher comme Jésus a marché. Apprenez à le connaître. Et la parole de Dieu, la prière, et c'est elle qui va nous aider à connaître notre Seigneur. Il faut du temps. Ça ne se fera pas en un jour. Moi, ça fait, je ne vous dirai pas, beaucoup de temps que je marche avec le Seigneur. Mais j'apprends encore. Et il y a des textes que je lisais hier ou avant-hier qui m'ont parlé, mais que je n'ai jamais compris. Et parfois, aujourd'hui, quand je les relis, eh bien, ça y est. Parce qu'en son temps, Dieu révèle les choses. En son temps. Soyons pas pressés, soyons patients, et l'amour de Dieu va se manifester dans nos vies, que son nom soit béni. Dieu n'a pas regardé les hommes, puis il s'est gratté la tête, il a dit, ils sont tous pécheurs, qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux les aider? C'est comme ça qu'il a fait, Dieu? Non, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils, afin que nous, au travers du sang de Jésus, eh bien, nous ayons accès au salut, accès au trône de la grâce. Je sais pas si vous vous imaginez, quand vous priez, quand vous fermez les yeux, moi c'est ce que je m'imagine. Je me vois devant le trône de Dieu. J'ai accès au trône de la grâce. Et je supplie Dieu de vous bénir, de me bénir, de bénir les frères, les sœurs. Et c'est comme ça qu'on avance. Alléluia. Il a mis le comble à son amour, dit l'Écriture. Il a donné son Fils Jésus, afin que nous devenions les enfants de Dieu. Ça vous encourage pas ça? De savoir qu'on est les enfants du Tout-Puissant. Notre héritage, c'est pas ce qu'il y a sur cette terre. Le paradis, il n'est pas sur la terre, et le cherchez pas. Le paradis, il est dans le ciel, auprès de Dieu, que son nom soit béni. Il veut que nous lui donnions la première place dans nos vies. Et pour cela, il lui faut obéir. Il faut obéir à sa parole. Quand Dieu vous parle, vous dit quelque chose, faites-le. Ne résistez pas à Dieu, parce que vous perdrez du temps. Dieu, il veut que nous nous affectionnons aux choses de l'Esprit. Et si nous aimons à l'exemple de Christ, eh bien nous verrons la puissance de Dieu agir au milieu de nous. nous verrons des hommes, des femmes se tourner vers Dieu. Même si nous ne les voyons pas de notre vivant, nous savons que la parole, elle va être semée dans les cœurs. C'est quoi qu'il nous demande le Seigneur ? C'est de semer. Moi, j'ai jamais vu un agriculteur jeter du blé dans la terre et puis tous les jours aller gratter la terre pour voir si le blé il semait, s'il poussait. Ou alors il allait tirer sur la tige pour le faire grandir plus vite. Vous avez vu ça dans un champ ? Vous avez vu un paysan ? Eh bien, nous, parfois, on est comme ça. On sème, mais on veut donner un coup de main au Seigneur. Le Seigneur, il nous demande de semer. Ne nous occupons pas après où va la graine. Qu'est-ce qu'elle devient ? C'est pas notre problème. C'est le problème de Dieu. Une fois que la graine a été plantée dans un cœur, c'est Dieu qui l'a fait croître. Alléluia. À nous d'arroser dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, dans la supplication, de pouvoir dire à Dieu, oui, eh bien, j'ai semé, mais c'est toi qui fais croître, Seigneur. Fais pleuvoir ta pluie dans ses cœurs, dans ses vies. J'ai prié pour un tel qui est malade, mais Seigneur, c'est toi qui guéris. Moi, je ne peux pas le guérir. Ton esprit va agir. Envoie ta parole, guéris le malade, Seigneur. C'est ça la foi. C'est ça croire que Dieu est vivant. Alléluia. Nous marchons aussi avec sagesse et précaution. La vie spirituelle, c'est pas à tout va. On ne fait pas n'importe quoi. Ephésiens 5,15 nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » La circonspection, c'est la prudence, de la retenue, de la discrétion. Et dans une autre version, il est dit « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. » Matthieu 26, 41 « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. » Marc 13, 33, prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez pas quand cela viendra. Voyez tous ces enseignements que Dieu nous donne. Veillez, priez, cela nous a été rappelé dans un don spirituel ce matin. Veillez et priez. Alléluia. Est-ce que vous aimez ? Ça veut dire quoi, veiller ? Ça veut dire quoi, veiller ? Veiller, c'est qu'on n'est pas endormi. Quand on veille, on ne dort pas. Quand on dort, on ne veille pas. On dort. Et le Seigneur nous demande d'être éveillés. La Bible nous enseigne à veiller sur nous-mêmes. Car Dieu sait que si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, si nous ne nous tenons pas sous le regard de la parole de Dieu, eh bien, nous ne pourrons pas surmonter toutes les épreuves que nous allons rencontrer, toutes les difficultés. Et si nous veillons, eh bien, nous ne serons pas entraînés dans toutes sortes de choses qui nous amèneront loin de Dieu. Quand on veille, on se tient et on dit « Seigneur, c'est toi qui diriges ma vie. » Alléluia. Ça commence toujours par des petites choses. Vous savez, le diable est rusé. Le diable est subtil dans ces choses. Ah, il ne va pas vous bousculer grandement, hein. Tout doucement. Il va vous chanter une berceuse et va vous endormir. C'est ça, comment ça qu'il agit, le diable. Alors c'est pour ça, il nous faut veiller, examiner notre vie devant le miroir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, vous savez, chaque verset qui est écrit dans la parole de Dieu, parfois vous ne comprenez pas, hein, mais Dieu il sait pourquoi il les a écrits. C'est pour nous parler. À toi, mon frère, à toi, ma sœur, à toi qui veux connaître Jésus. Prier, c'est demander à Dieu qu'il nous éclaire, qu'il vienne à notre secours. Veiller, c'est faire attention. Prier, c'est demander à Dieu. Mais prier, surtout, c'est qu'il faut se confier en lui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut prier, mais il faut croire que ce qu'on demande, eh bien, on va l'obtenir. Alléluia. L'histoire du peuple de Dieu, nous, dans la Bible, nous enseigne, et même celle de l'Église au cours des siècles, nous montre que s'il n'y a pas cette action et ce réflexe de prier, eh bien, on sort de la volonté de Dieu. Souvenez-vous de Josué, il a vaincu Jéricho. Alléluia, la ville est tombée, les murs sont tombés, gloire à Dieu. Alors on va aller voir Haï là-bas, et puis bon, on n'a pas besoin d'y aller tous, c'est même pas la peine de chercher Dieu. Ils sont petits, qu'est-ce qu'ils ont pris, une défaite ? Non, non, dans toutes circonstances, il faut chercher Dieu. Il faut savoir ce qu'il veut. Quand je fais quelque chose, je dis, Seigneur, mais je ne sais pas si c'est ta volonté. Je vais lire dans ta parole. Tu vas me parler. Je vais lire un verset, deux versets, trois versets. Et tu vas m'éclairer, Seigneur. Parce que ta parole, elle est vivante. Il faut le croire, mes frères, mes sœurs. C'est ce que je vis tous les jours. En veillant et en priant, eh bien, l'Église, elle va être en harmonie avec ce que Dieu veut. Et ça, c'est important. Surtout ce que Dieu veut. Galates 5, 14-15, nous avons vu, toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les hommes. Jésus dira lui-même dans Matthieu 12, 25, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et si vous lisez, vous avez l'habitude de lire dans les Corinthiens ce texte qui nous parle de la Sainte-Seine, chapitre 11. Vous le connaissez ce texte. Ce que j'ai appris du Seigneur. Mais vous avez lu ce qu'il y avait avant? Je vais vous le lire. 1 Corinthiens 11, 17. C'est le passage juste avant la Sainte-Cène. En donnant cet avertissement de ce que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça, c'est grave, hein, si on se rassemble pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez à l'Assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Écoutez bien ça. Verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes. Dans une autre version, il est marqué des divisions. Parmi vous. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus tels au milieu de vous. Notre comportement a un rôle important dans l'histoire de l'Église et dans notre vie spirituelle. Car suivant la manière dont je vais me conduire dans telle ou telle situation, ça aura des conséquences. Et il y aura des répercussions. Et parfois, pour 5 minutes de choses mauvaises, on passera des années à patiner dans la mousseline. Excusez-moi l'expression. Vous savez, c'est pourquoi le Seigneur insiste, affectionnez-vous aux choses de l'Esprit. Le diable, lui, c'est ce qu'il veut, c'est détruire, égorger. Il veut diviser l'Église, il veut diviser les familles, il veut mettre la persécution au sein des familles. Parce qu'il sait que c'est là que coule la bénédiction de Dieu. Ça commence par la famille, ça commence dans votre maison. C'est ça l'Église. L'Église, c'est pas uniquement ça. C'est chacun d'entre nous, où nous nous trouvons, dans nos maisons, avec nos enfants, nos familles, nos parents. Il veut utiliser, même le diable, il utilisera la parole de Dieu pour arriver à ses fins. La parole de Dieu nous dit qu'il se déguise même en ange de lumière pour nous écarter du chemin de Dieu. Faisons attention. Jésus a dit « Veillez et priez ». Ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Quand on ne comprend pas la Bible, on demande à Jésus. Il nous expliquera, ne vous inquiétez pas. Si on veut faire dire à la Bible ce que nous, on pense, on va s'égarer, on va aller loin. Dieu, il aime que nous soyons vrais. La parole de Dieu, elle a été donnée pour édifier, pour exhorter, pour guérir. Alléluia! Vous croyez que la parole de Dieu guérit? Elle reprend parfois. Vous aimez être repris? Attention! Mais après, c'est bien, c'est le Seigneur qui nous reprend. Hein, on n'aime pas toujours être repris, mais le Seigneur, quand il le fait, il fait les choses bien, que son nom soit béni. Alléluia. Elle s'adresse à tous, la parole de Dieu, en particulier à chacun. Laissons le Saint-Esprit nous parler lorsque nous méditons. Comme je disais tout à l'heure, quand on prie, il faut savoir se taire, écouter. Là, on a toujours l'habitude, c'est une habitude qu'on prend. Vous savez, des fois, on prie par habitude. Il n'y a que moi que ça arrive. De prier par habitude. Le Seigneur, ta 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 ta. Alléluia, merci Seigneur, j'ai fini. Le Seigneur nous connaît, il sait qui nous sommes. Mais le Seigneur, il attend autre chose de nous. Oui Seigneur, je te prie, mais je vais rester encore un peu de temps avec toi. Parce que tu vas me parler. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Laissons-nous convaincre par la parole de Dieu. N'ajoutons pas des convictions personnelles à la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup trop de gens qui font ça. N'essayons pas de faire le travail du Saint-Esprit. N'essayons pas de donner un coup de main au Seigneur. Le Seigneur, lui, il sait comment s'y prendre. Il faut faire la différence entre les dons et les fruits. Les dons, on est amené à les pratiquer. On est amené à les rechercher. Le fruit, on le porte, on le développe. Je vous l'avais expliqué une fois. Le fruit, il est toujours parfait. Quel que soit l'état dans lequel il est, que ce soit à l'état de bourgeon, à l'état de fleur, à l'état de fruit, il est toujours parfait. C'est comme ça que nous devons porter du fruit. Prenons le temps, laissons le temps. Un fruit, il lui faut du temps pour être un fruit. Mais le fruit de l'esprit, il faut le laisser grandir en nous. Alléluia. C'est Dieu qui distribue les dons, mais c'est nous qui portons les fruits. Alors, pour manifester les dons de l'esprit, est-ce qu'il faut être parfait? Les dons, ils se manifestent que dans les églises parfaites. Si l'église n'est pas parfaite, il n'y a pas les dons de l'esprit. Alors vous pouvez arracher toutes les pages des Corinthiens dans la Bible. Parce que cette église, elle avait les 9 dons. Extraordinaire, les 9 dons de l'esprit. Mais alors, dans quel état elle était? Elle était dans la débauche, dans l'ivrognerie. Il y avait les pires choses qui se passaient dans cette église. Mais Dieu, il nous aime. Pas qu'il aime le péché. Mais il aime le pécheur, alléluia, et il veut se manifester au milieu de nous. Alors, si vous recevez quelque chose du Seigneur, mettez-le en pratique. Ne l'enfouissez pas, laissez-le s'épanouir, alléluia. Nous marchons dans la lumière, La vie spirituelle, c'est une vie de lumière, que son nom soit béni. Nous ne sommes pas des lumières. Il ne faut pas confondre. Hein. On est là pour refléter la lumière de Christ, mais nous, on n'est pas des lumières. Parce que si on se prend pour des astres, on peut devenir des astres. Des astres en deux mots et des astres en un mot. On n'est pas des lumières. On reflète la lumière de Christ dans notre vie, le parfum de Christ dans notre vie. Si Christ nous éclaire, alors nous allons faire rayonner cette belle parole de notre vie. Alléluia. La volonté de Dieu, elle est agréable et parfaite pour chacun de nous. Est-ce que vous connaissez une des volontés de Dieu pour votre vie? Au moins une. Prenez les Thessaloniciens avec moi, 1 Thessalonicien. Voyez, la parole de Dieu, elle parle d'elle-même. 1 Thessalonicien, chapitre 5, et verset 18. Regardez ce qu'il est dit. « Rendrez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Je le répète. « Rendez grâce en toutes choses, quelles que soient les circonstances. Rendez grâce. » Vous savez ce que ça veut dire, rendre grâce? Dire merci. Merci au Seigneur. Vous lui dites merci au Seigneur? Moi, quand je me lève le matin, je dis merci Seigneur. Pas pour les douleurs, mais parce que je suis réveillé. Et je vais pouvoir te servir encore aujourd'hui. Merci pour tout. Merci pour tout. C'est ça, la volonté de Dieu à notre égard. Alléluia! Que Dieu soit béni. Le Seigneur vous aime, mes frères et sœurs. Et quand nous avons cette vie spirituelle à nous, eh bien, qu'est-ce que nous sommes amenés à faire? Nous sommes amenés à marcher comme Jésus lui-même a marché. 1 Jean 2, 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Si nous voulons voir Jésus grandir dans notre vie, à nous, il faut concrétiser nos paroles en actes. Nos actes qui démontrent que Jésus est dans nos vies. Savoir demander pardon. On peut, comme je disais tout à l'heure, on peut se tromper. C'est pas grave si on se trompe, mais si on fait toujours les mêmes erreurs, là ça devient grave. Il faut demander l'aide du Seigneur. Une erreur doit nous amener à vivre une expérience et vivre autre chose. Marcher dans l'humilité, la soumission, comme Jésus a marché. Et nous verrons la vie, cette vie spirituelle se développer. Vous aurez du temps, il faut du temps au Seigneur pour faire son œuvre. Toute chose que Dieu fait est beau. Est belle. Toutes les choses que Dieu va faire, c'est beau, c'est merveilleux. Laissons le temps au Seigneur. Précipitons pas les choses. Demandons-lui de nous aider. Et je terminerai par ces paroles. Affectionnez-vous aux choses de l'Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, combien nous réalisons cette grâce que nous avons de pouvoir partager la communion fraternelle, partager cette vie avec toi, chaque instant, chaque minute, tu es à nos côtés. On n'a pas besoin de ressentir ta présence, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole que tu es là, tous les jours, avec nous. Si nous marchons main dans ta main, si nous ne lâchons pas ta main, tu nous accompagnes sur notre chemin, Seigneur. Je bénis ton nom pour mes frères, mes sœurs ici-là, qui sont là, Seigneur. Conduis-les, fortifie-les, encourage-les, et que ces quelques mots que j'ai pu leur adresser, eh bien que ton esprit vienne les visiter, mon Dieu. Et les encourager pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni.